Donc bonjour tout le monde. Donc pour le son, ça va ? Ok, super. Donc on va prendre quelques instants pour revenir présent à nous-mêmes et pour établir notre motivation pour la journée. Donc on prend conscience de notre corps ce matin. On ramène vraiment notre esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Pour ça, on peut vraiment céder des sensations corporelles. Donc on prend conscience de la position du corps. Comment est-ce qu'on est assis? Le poids du corps sur le sol, la chaise. Puis on peut prendre conscience de notre respiration. Juste observer, sans chercher à rien modifier. Comment est notre respiration ce matin? Donc on essaie de maintenir notre esprit, notre attention sur l'observation du souffle. Quand il y a des pensées qui s'élèvent, on les laisse passer, comme des nuages qui ne font que passer dans le ciel. On n'entame pas un dialogue avec elles. Simplement, on note, tiens, une pensée, une sensation, et on ramène notre attention sur le souffle. On fait ça avec beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes. C'est normal d'avoir des pensées qui s'élèvent. Puis on peut se dire, comme c'est formidable, comme c'est merveilleux, de s'être encore réveillé ce matin dans ce corps humain. Quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne, on est encore en vie. On a encore ce corps, cet esprit, et toutes ces conditions positives. On a suffisamment de nourriture, on a de quoi se vêtir pour se protéger du froid, on a un toit pour dormir le soir. On est dans un pays où on peut facilement avoir accès aux soins médicaux si on en a besoin. Quels que soient les inconforts, les difficultés qu'on rencontre, on a quand même toutes ces conditions fondamentales, favorables, qui sont réunies. Comme c'est formidable, comme c'est merveilleux. On peut se demander pourquoi est-ce que j'ai fait l'effort aujourd'hui de consacrer cette précieuse journée du dimanche pour approfondir ma connaissance des enseignements du Bouddha. Qu'est-ce qui m'a motivée à faire cela? Alors chacun, on a une façon de formuler ça. Peut-être c'est même pas des mots, c'est juste un ressenti. C'est quelque chose de très personnel. Et derrière cela, notre aspiration profonde, c'est de trouver davantage de bonheur dans notre vie. De trouver comment accéder à un état de satisfaction qui ne dépendent pas de choses à l'extérieur de nous et qui dépendent de nous-mêmes, qui viennent de nous-mêmes. C'est d'être séparé de dukkha, cet inconfort. Ce sentiment d'insatisfaction. Donc on a au plus profond de nous cette aspiration au bonheur. Cette aspiration, elle est complètement légitime. Ça fait partie des droits fondamentaux de chaque être vivant, d'être libéré de la souffrance. Et d'obtenir un état de réel bonheur. C'est une aspiration complètement légitime, complètement naturelle. et on ressent. Puissais-je, moi-même, parvenir à me séparer de cette insatisfaction, de cet inconfort, de cette souffrance, et accéder à un état de réel bien-être, de satisfaction, de bonheur. Qu'on fait naître cette bienveillance pour nous-mêmes. Et une fois qu'on l'a fait naître pour nous-mêmes, on pense à toutes les autres personnes qui nous entourent, qui elles aussi ont la même aspiration que nous, et leur aspiration est tout aussi légitime que la nôtre. Chaque personne aspire au bonheur, et chaque personne a le droit d'accéder à cet état. En plus, les autres personnes, elles aussi, parvenir à mettre fin à leur insatisfaction et accéder à un état de réel bien-être, de réelle satisfaction, de réel bonheur. Peut-être que dans ce champ d'amour, de compassion, peut-être en pensant à une personne qui est proche de nous, un ami, un proche, on arrive à inclure cette personne dans notre champ d'amour et de compassion. Et c'est formidable. Peut-être on peut inclure 2 personnes, 3 personnes. C'est formidable. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à augmenter le rayonnement de ce champ d'amour et de compassion pour inclure davantage de personnes. Formidable. Quel que soit ce champ de rayonnement, on est satisfait. Ce qui est important, c'est de prendre le temps d'ancrer cet amour de compassion dans notre cœur, mais de façon vraiment naturelle, de ne pas vouloir trop vite inclure tous les êtres de façon abstraite. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps que ça soit authentique, non déjà, par rapport à nous-mêmes, déjà le ressentir, la bienveillance par rapport à nous-mêmes. Et après, peut-être, on peut inclure 1, 2 personnes, 3 personnes. Petit à petit, ça va se renforcer. Et on pourra petit à petit augmenter le rayonnement de cet amour, de cette compassion. Et on peut penser que tout ce qu'on va faire pendant cette journée, l'écoute des enseignements, les méditations, les discussions, et aussi tous les moments de pause, quand on va marcher, quand on va manger, quand on va parler avec d'autres personnes, puissent tous ces moments servir à nous aider à renforcer ce champ d'amour et de compassion jusqu'à ce que cette bienveillance puisse s'étendre pour inclure tous les êtres dans toutes les formes d'existence et jusqu'à ce qu'on soit capable de générer en notre cœur la bodhicitta, l'esprit d'éveil, de façon authentique. Donc ce souhait afin d'être bénéfique à tous les êtres, d'atteindre nous-mêmes l'état de Bouddha. Donc ensemble, on va dans le livre de prière, page 34. On peut aller page 34 pour la prière de refuge et la production de l'esprit d'éveil. En pensant que dans l'espace devant nous se trouve le Bouddha Shakyamuni. Et on génère vraiment un sentiment de confiance en le Bouddha, en ses enseignements, le Dharma, et en sa communauté, le Sangha. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge, grâce aux mérites réunis par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge, grâce aux mérites réunis par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux mérites réunis par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Puis on peut lire ensemble les quatre pensées incommensurables. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité exempte de toute souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, sans attachement pour les amis, ni haine pour les ennemis. Puis je vous propose ce matin d'aller à la page 141 dans le livre de prière, pour qu'on lise ensemble les trois principaux aspects de la voie. Donc c'est une prière du Lamrim qui reprend l'ensemble des points de la voie graduée vers l'éveil. C'est une prière qui a été composée par Lama Tsongkhapa. Donc on va la lire ensemble, et comme ça, ça nous permet de vraiment resituer le sujet qu'on est en train d'étudier, la bodhicitta, dans le cadre de l'ensemble du Lamrim. Hommage à mes maîtres parfaits, l'essence des enseignements des victorieux, la voie louée par tous les victorieux et leurs fils, la porte d'entrée pour les fortunés qui aspirent à la libération, voilà ce que je vais m'efforcer d'exposer au mieux de mes capacités. Vous qui n'êtes point attachés au plaisir de l'existence cyclique, qui vous efforcez de donner un sens à votre existence disponible et qualifiée, qui vous en remettez à la voie qui réjouit les victorieux, aux fortunés, l'esprit paisible, écoutez. Sans une intention totale de s'affranchir définitivement du samsara, il est impossible de pacifier l'attachement en quête de résultats dans l'océan du samsara. De plus, la soif pour l'existence cyclique enchaîne continuellement les êtres incarnés. Aussi, en tout premier lieu, cultivez le renoncement. Les libertés et richesses de cette existence sont difficiles à trouver et la vie s'écoule, le temps ne peut attendre. Par la familiarisation avec ses pensées, l'attrait pour les apparences de cette vie se dissipe. Par une réflexion maintes fois renouvelée sur l'infaillibilité des actions et de leurs effets, et par la contemplation continue des malheurs de l'existence cyclique, l'attrait pour les apparences des vies futures se dissipe. Lorsque, grâce à cette pratique, ne survient plus, même l'espace d'une seconde, le moindre attrait pour les merveilles de l'existence cyclique, et que l'aspiration à la libération s'élève de jour comme de nuit, alors la pensée de renoncement a été engendrée. Même si le renoncement a été développé, s'il n'est pas imprégné de l'esprit d'éveil, il ne peut servir de cause au bonheur suprême de l'éveil insurpassable. C'est pourquoi les sages cultivent le sublime esprit d'éveil. Emportés par le cours violent des quatre rivières, étroitement enchaînés par les liens, difficiles à briser, des actions, piégés dans le filet d'acier de la saisie du soi, plongés complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance, ils renaissent encore et toujours dans le cycle des existences et sont pris dans la tourmente incessante des trois souffrances. Telle est la condition de tous les êtres, nos mères. Par cette contemplation, cultivez le suprême esprit d'éveil. En bref, si, de même que pour la mère dont l'enfant chéri est tombé dans un brasier de flammes, une seule seconde de souffrance qu'il endure est une éternité insoutenable, par votre réflexion sur la souffrance de tous les êtres nos mères, vous ne pouvez supporter qu'elle dure une seconde de plus. Et si votre souhait qui tend vers l'éveil pour leur bien s'élève sans effort, alors vous avez réalisé l'esprit d'éveil précieux et suprême. En l'absence de la sagesse qui réalise la réalité ultime, même si vous avez réalisé le renoncement et l'esprit d'éveil, vous ne pouvez trancher à la racine la cause du samsara. Aussi, efforcez-vous à la méthode permettant de réaliser la production dépendante. Celui qui voit comme à jamais infaillible la causalité de tous les phénomènes, de l'existence cyclique et de l'état au-delà de la souffrance, et pour qui toute saisie de l'existence réelle des objets a totalement disparu, celui-là est entré sur la voie qui réjouit les Bouddhas. Si l'apparence de la relation en dépendance qui est infaillible est acceptée séparément de la vacuité, en tant qu'elles sont perçues comme distinctes, on n'a pas encore réalisé la pensée du Bouddha. Quand ces deux réalisations surviennent simultanément et non plus en alternance, et que de la simple vision de la relation en dépendance comme tout à fait infaillible, naît une ferme certitude qui détruit complètement la façon dont tous les objets sont appréhendés comme existants véritablement, alors l'analyse de la vue suprême est complète. En outre, la compréhension des apparences dissipe l'extrême d'existence intrinsèque et celle de la vacuité, l'extrême de la non-existence. Lorsque vous comprendrez comment la vacuité se manifeste à la manière de cause et d'effet, vous ne serez plus fasciné par les notions erronées tenant des vues extrêmes. Ainsi, lorsque vous réalisez tels qu'ils sont les points essentiels des trois principaux aspects de la voie, retirez-vous dans la solitude, développez la force de l'effort et accomplissez rapidement votre aspiration profonde, mes enfants. Donc hier, on a vu les bienfaits de la bodhicitta. Puis on a commencé à étudier les méthodes nous permettant de générer cette précieuse bodhicitta. Donc on a fait ensemble la méditation sur les six causes et un effet qui est la première des deux méthodes. Donc je vous propose voilà, de repasser en revue ensemble chacun de ces points sur lesquels on a fait la méditation hier après-midi. Donc le premier, la première des six causes, c'est la reconnaissance que tous les êtres ont été notre mère. Et comme on l'a vu dans la méditation que j'ai guidée hier après-midi, en fait, là, ce qu'on établit, c'est la continuité de notre courant de conscience. Dis-moi. Ah, c'est pas... Ah, j'ai pas partagé. Ok. Alors. Ah, on est sur Zoom. Ok. Attendez. Hop. Zoom. Partager l'écran. Voilà. Ok. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai mis une image d'un long fleuve qui s'écoule. C'est vraiment ça qu'on cherche à établir. C'est vraiment par le raisonnement, c'est par la logique. Le fait que on est constitué d'agrégats physiques, notre corps physique, et d'un esprit. Et l'esprit et le corps, ils sont pas de même nature, ils sont de nature différente. Il y en a un qui est de nature physique, l'autre qui est immatériel. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est, en fait, c'est pas vraiment, c'est toute la difficulté, elle est dans le fait de réussir à établir le fait que, oui, notre esprit, il vient pas de nos parents, et on peut imaginer d'où est-ce qu'il pourrait venir, et il peut venir, en fait, de rien de matériel, puisqu'il est immatériel, quelque chose de matériel peut pas donner, peut pas créer quelque chose d'immatériel. On ne peut pas, dans une usine, fabriquer des esprits. On peut agir sur la matière, fabriquer des choses qui vont avoir des formes différentes, mais ça va toujours être des éléments physiques qu'on va créer dans une usine. Donc comme ça, vraiment, par la logique, se demander, ok, donc d'où vient mon esprit ? Le corps, c'est facile, on sait d'où vient le corps, il n'y a pas de problème. Mais d'où vient l'esprit ? Et ça, ce qui est très difficile pour nous, c'est qu'on n'est pas... habitué dans notre culture à penser qu'on a que notre esprit il est sans commencement et donc on a eu des vies passées où il y a toujours eu cette continuité de notre esprit qui a pris différents corps au fil du temps. Okay. Donc ça, il n'y a pas 50 000 raisonnements, il y en a juste un, c'est vraiment d'analyser d'où peut provenir notre esprit, et d'analyser qu'en fait, il y a une continuité dans notre esprit. Et comme ça, on remonte, comme on a fait hier soir, hier après-midi. Mentalement, on remonte, on prend conscience, oui, ok, ce matin, je me suis réveillée, c'était la continuité de mon esprit d'hier. Okay, mon esprit d'hier, c'est la continuité de l'esprit d'avant-hier. Et on remonte comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à notre enfance, jusqu'à notre naissance, quand on était dans le ventre de notre mère, avant et avant. Et qu'est-ce qui s'est passé avant ? Donc ça, c'est un point qui n'est pas facile, mais en fait, si on réussit à établir la continuité de notre esprit, et le fait que notre esprit est sans commencement, alors, après, le reste, ça découle naturellement. Parce que si on a assumé tout un tas de corps, dans toutes nos existences passées, forcément, on a eu tout un tas de personnes qui nous ont donné ces corps. Donc on a eu tout un tas de parents. Et ces parents, ils ont pris soin de nous. Okay. Donc ça, c'est le premier point, la reconnaissance que tous les êtres ont été notre mère. Donc on parle de la mère dans les enseignements, parce que la mère, c'est l'exemple le plus fort de la personne qui a pris soin de nous. Okay. Mais après, nous, souvent, on a des difficultés avec notre mère. On a notre culture, je sais pas, il y a des fois, on en veut à nos parents, il y a des choses. Donc après, c'est pas... On n'est pas obligé de prendre la mère, en fait. Si ça nous crée un petit blocage psychologique, on peut, de façon plus générale, prendre les parents, déjà prendre les deux parents. Et on peut penser à une personne, quelle que soit la personne qui a fait preuve de bonté à notre égard quand on était petit. Et forcément, on a eu une telle personne dans notre vie. Sinon, tout simplement, on ne serait pas en vie. C'est quand on était un petit bébé, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait pris soin de nous, on n'aurait pas pu se développer, on n'aurait pas grandi, et donc on ne serait pas en vie. Donc forcément, on a tous eu quelqu'un qui a pris soin de nous. Donc ça, une figure maternelle, on va dire. Mais après, ça peut être le père, ça peut être un grand frère, ça peut être une tante, un oncle, un cousin, peu importe en fait. Un travailleur social, voilà, peu importe. Alors, je n'ai plus accès au... Alors. Voilà. Donc après, on arrive au deuxième point, la deuxième cause, qui est se souvenir de leur bonté. Donc on se rappelle, si on se souvient de la personne qui a pris soin de nous dans cette vie, on peut prendre des exemples. Peut-être cette personne, elle nous a nourris, elle nous a habillés, elle nous a éduqués, elle nous a appris à nous comporter, à parler, à marcher, etc. Elle nous a... elle s'est assurée qu'on avait une éducation, elle nous envoyait à l'école, etc., etc. Et c'est sûr, ça lui a pris énormément de temps. S'occuper d'un enfant, ça prend beaucoup de temps. Elle a sûrement fait... elle a pris sur son temps personnel pour s'assurer qu'on avait tout ce dont on avait besoin. Et puis ça lui a pris des moyens financiers, ça lui a demandé de l'argent, ça lui a demandé de consacrer une partie de ses ressources à notre bien-être. Donc on pense à tout ça. Et puis bien sûr, tout l'amour que la personne nous a donné, l'amour, la tendresse, qu'ils ont été vraiment... Il n'y a pas juste des choses matérielles, mais c'est grâce à ça qu'on a pu se développer. Donc on pense à ça, à la bonté dont a fait preuve cette personne ou ces personnes. Et à partir de l'exemple de notre figure parentale de cette vie, on va l'étendre à... dans nos autres vies, quand on avait d'autres corps, là encore, on a eu quelqu'un qui a pris soin de nous. Donc ça, c'est pour toutes nos vies. Je peux réduire ça. Qui en se souvenant de la bonté de tous ces êtres, alors presque naturellement, on a le souhait de leur rendre cette bonté qui va en être dans notre cœur. En fait, comme je vous disais hier, en fait, le plus difficile dans cette méthode, c'est le début. mais une fois que le début il est bien établi, après les autres points, les autres causes, elles s'enchaînent. Assez facilement. Mais donc ça vaut vraiment la peine de passer du temps sur le début, sur les premières causes, parce qu'après ça va être vraiment naturel. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc on va avoir naturellement le souhait de rendre la bonté à tous ces êtres qui va s'élever. C'est vraiment naturel. Si on a une personne, on pense à la personne qui a pris soin de nous quand on était petit, maintenant, si cette personne elle a besoin d'aide, ou si elle souffre, si elle est malade, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour l'aider, naturellement, on va vouloir le faire et on va le faire. Il n'y a pas besoin de... C'est quelque chose qui va naître de façon assez naturelle dans notre esprit. Et à partir de là, il y a l'amour qui naît dans notre cœur. Donc là, c'est l'amour... C'est un amour qui voit les êtres comme... qui voit leur beauté, en fait. C'est une forme de tendresse. On pourrait dire que c'est un amour-tendresse. Comme l'amour qu'éprouve un parent pour son enfant. Qui voit l'aspect positif de l'enfant. Et qui veut que l'enfant soit heureux. Et puis on arrive à la grande compassion. Donc, dans les enseignements, ils nous disent, donc la compassion, on a vu hier, c'est donc l'amour, c'est vouloir que l'autre soit heureux, et la compassion, c'est vouloir qu'il soit libéré de sa souffrance. Donc, Pagompa de Chanlingpo, par exemple, il nous dit de, là, on peut prendre comme exemple une brebis qu'on imagine qui est en train d'être conduite à l'abattoir. Donc on imagine ses souffrances, et on imagine que cette brebis, en fait, c'est bien sûr c'est la forme, l'existence actuelle d'un de nos parents du passé. Une personne qui a pris soin de nous dans le passé, maintenant, elle a cette forme d'existence-là, et on est en train de la conduire à l'abattoir. Alors naturellement, on va vouloir la libérer de ses souffrances. Là, c'est un exemple. Après, c'est à chacun aussi de trouver l'exemple qui va lui parler. Là, il y a une forme de souffrance animale qui nous touche particulièrement. On peut penser que cet animal, en fait, à un moment, il a été mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Alors naturellement, on va vouloir qu'il soit libéré de ses souffrances. Et on arrive au sixième, à la sixième cause, l'intention supérieure, qu'on traduit aussi par la pensée extraordinaire, ou l'attitude extraordinaire. On ne se contente pas juste de cet amour, de cette compassion pour les êtres qui ont été nos mères. Et on se dit, moi-même, je vais faire quelque chose pour les aider. C'est vraiment un sentiment de responsabilité qui naît. C'est pas simplement un amour, une compassion qu'on ressentirait, mais qui nous engage à rien. Là, on fait naître un engagement, un sentiment de responsabilité. Et on arrive à l'effet bodhicitta. Donc à partir de ce sentiment de responsabilité, moi-même je vais faire quelque chose pour aider ces êtres qui ont été mes parents dans le passé. Et on analyse qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment les aider, pour leur être vraiment bénéfique. Et on cherche quelle méthode, qu'est-ce qu'on peut faire. Bien sûr, on peut leur donner de la nourriture. On peut essayer de les libérer de leurs souffrances, les êtres qui sont dans les abattoirs, mais il y a des gens qui vont méditer pour atténuer les souffrances des animaux, etc. On peut faire tout ça, bien sûr. Mais ça va être quand même assez limité, en fait, les bienfaits qu'on peut faire, qu'on peut réussir à obtenir de cette façon-là. Ça va être très difficile de... Mais même si on réussit à atténuer leur souffrance dans cette vie, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie suivante ? Ce qu'il faut réussir à atténuer, c'est les causes de leur souffrance.
Parce qu'hier vous aviez justement sur cette question de l'autocompassion parlé de l'égoïsme, etc. Donc sans partir dans ce côté-là, est-ce que finalement la meilleure chose à faire, c'est pas d'abord de se libérer soi-même?
Je sais pas. Ouais. C'est une bonne question. Alors, le truc, c'est que si on se libère uniquement soi-même, si notre but, c'est la libération individuelle, on va atteindre le nirvana. Le nirvana, c'est un état, effectivement, on est complètement libéré, c'est la libération, mais on n'est pas en mesure d'aider les êtres. Parce qu'on va, c'est comme si on était absorbé dans un état de félicité individuelle. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on nous encourage sur le chemin du Mayana, enfin, si, on nous encourage à aspirer à développer Bodhicitta dès le début, en fait. Parce que sinon, le risque, c'est de tomber dans le Nirvana. Et comme on disait hier, en fait, du point de vue du Mayana, il y a deux pièges. C'est le samsara, bien sûr, ça c'est un premier piège. Mais le nirvana, c'est tout aussi un piège que le samsara, parce que c'est simplement une libération individuelle.
Et du coup, est-ce qu'on peut se dire qu'on fait la part des choses? C'est-à-dire qu'on peut aider les êtres sur certaines choses, mais on sait aussi qu'on a des tendances sur lesquelles on ne pourra pas les aider et sur lesquelles on doit se libérer soi-même. Et les autres choses où on est capable de les aider. En fait, reconnaître qu'on ne peut pas non plus, qu'on n'est pas Bouddha, qu'on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas sauver le monde. Donc peut-être essayer d'agir sur les points qu'on peut, mais ne pas... Parce que du coup, ça pourrait être contre-productif, en fait, d'essayer d'aider une personne sur laquelle nous-mêmes, on a des perturbations. Donc est-ce que se libérer d'abord de ces choses-là, nous-mêmes, et essayer par contre de développer la bodhicitta sur des choses sur lesquelles on a la capacité de le faire.
Alors, ok. Donc en fait, il y a deux choses là. Il y a le fait que on va s'efforcer, par exemple le matin, quand on se réveille, on va s'efforcer de développer cette bodhicitta. On va dire sur le coussin. Bon, ça peut être même quand on se réveille, quand on est encore allongé dans le lit, il n'y a pas forcément de... besoin de s'asseoir sur le coussin, on peut développer cette motivation pour la journée qui est notre but vraiment à long terme. On va dire, probablement, de toute façon, ça ne sera pas dans cette vie qu'on va pouvoir atteindre cet état. Mais c'est notre but à long terme. Et si ça prend plusieurs vies, si ça prend 10 vies, si ça prend 100 vies, ben c'est formidable, puisque ça fait des vies sans commencement qu'on est dans le samsara. Donc on a ce but à long terme, et après... Ce qu'on fait, bien sûr, au cours de la journée, mais il y a les êtres qui, concrètement, on peut aider. Mais si on est capable de les aider, parce qu'on a les moyens de les aider, on a suffisamment de sagesse pour les aider de façon habile, ben on peut les aider, bien sûr, on va les aider. Et on verra, cet après-midi, on verra les six perfections. Donc là, c'est... des façons plus concrètes de pratiquer dans la vie quotidienne. Okay. Et puis bien sûr, donc on aide les êtres qu'on peut aider par les moyens qu'on peut aider, qu'on peut faire, en fonction de nous, notre capacité, hein, de nos compétences, on va dire. Et en parallèle de ça, bien sûr, on travaille en même temps dans notre vie quotidienne sur toutes nos perturbations mentales, hein, tout ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin. Hein, ça c'est... C'est important ce que tu dis, parce que c'est pas parce qu'on a cet objectif, on va dire, à long terme, que bien sûr, dans notre vie quotidienne, on s'efforce de pratiquer là où on est, quoi, avec ce qu'on est, et de travailler, de mettre les mains dans le cambouis de nos propres perturbations mentales et de travailler sur elles. Parce que c'est en faisant ce travail-là concrètement qu'on va pouvoir petit à petit se rapprocher de notre objectif à long terme. Donc il y a deux niveaux. Il y a l'objectif vraiment à long terme. Et après, bien sûr, il y a aussi de travailler sur là où on en est, quoi. Mais c'est pas parce qu'on travaille sur là où on en est qu'on peut pas avoir une aspiration à long terme. Ok. Oui, ok.
Il y a Isabelle par Zoom.
Oui. Bonjour. J'ai une question concernant le point 3, le souhait de leur rendre cette bonté. Quand on a eu une personne qui a pris soin de nous pendant son existence et qu'on s'en est pas vraiment rendu compte et qu'on s'en rend compte quand elle est partie, quand elle n'est plus vivante, comment faire pour lui rendre quand même cette bonté? On peut bien sûr rendre à toutes les autres personnes, mais spécifiquement à cette personne-là, comment faire?
Ah oui, ok. Merci. Donc cette personne, on n'est plus en contact avec elle dans cette vie, mais elle a pris une autre forme d'existence, cette personne, elle a pas cessé d'exister, elle est dans un autre corps maintenant. Son courant de conscience, il s'est incarné dans un autre corps. Donc on peut penser, mais comme on a un lien avec elle, par exemple, c'était notre mère dans cette vie-là, notre mère elle est décédée, on a un lien, on va dire un lien karmique, hein, très fort avec elle. Donc on peut penser, peut-être on va la rencontrer à nouveau, hein, dans le futur, sous une autre forme. Et on ne sait pas qui ça sera. Peut-être ça va être sous la forme d'un animal, sous la forme d'un autre être humain. Donc on peut penser que potentiellement, finalement, les personnes qu'on rencontre, hein, peut-être c'est elle, en fait. Hein. Donc on peut, je sais pas si elle est morte, on va dire, il y a 10 ans. On rencontre quelqu'un qui a à peu près 10 ans. Peut-être c'est un enfant. Mais on ne sait pas. Peut-être que c'était finalement notre mère qui est dans ce corps-là. Peut-être c'est sous la forme d'un animal. Là, il y a plein de possibilités. Donc en fait, Et ça, c'est juste cette vie-là, en fait. Ce qu'on essaie de développer dans la méditation, c'est de se rendre compte, ok, cette situation-là, en fait, c'est valable pour toutes nos mères de toutes nos vies. Donc en fait, tous les êtres qu'on rencontre, à un moment ou à un autre, ils ont pu être notre mère. Donc là, notre regard sur les gens, il change complètement, quoi.
D'accord, merci beaucoup.
Ok, donc on en était à Bodhicitta. Ah non, je vais dans l'autre sens là. Tac. Tac. Donc on génère ce sentiment, voilà, ce sens de responsabilité altruiste. Et donc on se dit, ok, comment vraiment aider les êtres? Et bien en fait, la meilleure façon de les aider de façon ultime, hein, pas juste de façon temporaire, bien sûr on les aide aussi de façon temporaire, hein, en apaisant leurs souffrances quand on peut le faire, en leur donnant à manger, en les aidant, en prenant soin d'eux, bien sûr on le fait ça, mais c'est que temporaire. Ça va pas mettre un terme à leur souffrance pour toujours. La seule façon de mettre un terme à leur souffrance pour toujours, c'est de devenir nous-mêmes Bouddha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire devenir Bouddha? En tibétain, c'est sangye. Donc sang, c'est complètement purifié. Et gye, c'est complètement développé. Donc on purifie complètement notre esprit de tous ses voiles, de tous ses kleshas, de tous nos défauts. Et on développe, on parachève toutes nos qualités, tous nos potentiels positifs. Toutes nos qualités, l'amour, la compassion, les moyens habiles, la sagesse, on les développe parfaitement. C'est ça, Bouddha. C'est comme on peut dire, c'est comme un médecin. C'est ça qu'on compare Bouddha à un médecin. C'est comme un médecin qui sait comment soigner toutes les maladies, comment faire le diagnostic approprié pour chaque personne qu'il rencontre, et qui sait exactement quel remède lui prescrire. Que ce soit... qui sait exactement comment guider chaque personne pour l'aider à se libérer de façon ultime de toutes ces perturbations mentales. Et nous, comme on voit avec la question d'Isabelle, c'est on a un lien particulier avec certains êtres. Hein, tous ces êtres qui ont été nos parents, eh ben on a un lien karmique, une connexion karmique qui est très forte. Et donc on va pouvoir utiliser ce lien. C'est comme si ça crée une relation positive avec les êtres. Et on peut utiliser cette relation pour... Et quand on sera Bouddha, même avant, bien sûr, quand on sera Bodhisattva, hein, c'est pas, on passe pas de 0 à 100, c'est graduel le développement. Donc de plus en plus, on va être capable d'avoir davantage de sagesse et d'être capable de guider les êtres de mieux en mieux, de façon de plus en plus appropriée. Okay. C'est le long terme, objectif à long terme. Okay. Donc ça, c'est la première des deux méthodes. Donc on va voir qu'il y a une deuxième méthode. C'est l'égalisation et l'échange avec autrui. Donc ça, c'était... L'égalisation, l'échange, hein, c'est une méthode, on dit, qui est plus vaste, qui est plus puissante pour générer bodhicitta. Et pourquoi est-ce que c'est plus vaste et plus puissant que les six causes et un effet? Parce que quand on médite sur les six causes et un effet, on pense à la bonté des êtres uniquement quand ils étaient nos parents. En notre mère. Mais là, avec l'égalisation, l'échange de soi avec autrui, on va penser à leur bonté, la bonté qu'ils nous ont manifestée de toutes les manières possibles et de tout temps, pas seulement quand ils étaient nos parents. Donc c'est pour ça que c'est plus vaste. Et que la force de l'amour et de la compassion qu'on peut générer par cette méthode peut être encore plus vaste et plus puissant que l'amour, la compassion qu'on va générer par les six causes et un effet. Donc, comme on a vu hier, cette deuxième méthode, traditionnellement, elle a été gardée secrète. La Mahatisha l'a transmise uniquement à son disciple principal, Dramtenpa. Et après Dramtenpa, l'a transmise uniquement à un de ses disciples ou à quelques disciples quand ils voyaient que la personne était vraiment mûre pour recevoir cet enseignement-là. Ok. Donc je vous propose de faire comme hier. Déjà, je vais guider une méditation sur cette méthode. Et puis après, on pourra la regarder ensemble. Et si vous avez des questions sur les différents points, les clarifier après la méditation. Donc à nouveau, on prend une posture appropriée pour la méditation. Alors c'est pas, y a rien d'extraordinaire. Hein, c'est juste le point principal, c'est d'avoir le dos droit. Ça permet aux énergies de circuler de façon plus harmonieuse dans notre corps, sans obstacle. Mais après, bien sûr, on adapte la posture à nos capacités corporelles de ce matin. Si on est assis sur une chaise. Ce qu'on essaie de faire, c'est, si possible, de ne pas s'appuyer sur le dossier, mais d'essayer, si on le peut, de maintenir le dos, la colonne, naturellement. Donc le premier point, c'est l'égalisation entre soi et autrui. L'égalisation de soi-même et d'autrui. Donc dans le Lama Tshopa, on nous dit, puisque personne ne désire la moindre souffrance, il n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc pas d'autrui. J'implore votre grâce afin de joyeusement rendre les autres heureux. Donc on pense à cette humanité commune, le fait que on reconnaît à l'intérieur de nous-mêmes qu'on ne souhaite pas rencontrer de la souffrance, on souhaite se libérer de toutes ces souffrances physiques, mentales. Et à partir de là, de cette reconnaissance que nous-mêmes, on aspire au bonheur, qu'on n'est jamais rassasié de bonheur, bah les autres sont exactement comme nous dans leur aspiration. Eux aussi, ils désirent aucun être, hein, que ce soit un humain, un animal, aucun être ne désire souffrir. De façon instinctive, on évite la souffrance. On évite les situations qui nous font souffrir. On le voit très bien chez les animaux. S'il rencontre une souffrance physique, il peut s'en libérer. Il le fait de façon vraiment instinctive, naturelle. Donc nous-mêmes, comme autrui, on aspire au bonheur. Donc on est exactement comme autrui, on partage avec toutes les autres personnes cette aspiration au bonheur. Une fois qu'on a reconnu en nous-mêmes cette aspiration, qu'on l'a reconnue chez les autres, on se demande, mais pourquoi est-ce que cette aspiration, elle serait davantage légitime pour moi-même que pour autrui? Pourquoi est-ce qu'on considère que notre bonheur est plus important que celui d'autrui? D'un point de vue logique, un tel raisonnement ne tient pas. Nous-mêmes, on est juste une personne, et les autres sont infinis. Même si on prend juste les êtres humains, nous, on est une personne. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc si on met ça dans une balance, on peut pas. Pourquoi est-ce qu'on... Le côté de la balance, il y a juste moi. Pourquoi est-ce qu'il est en haut? Et pourquoi les 7 999 000, etc. Pourquoi est-ce qu'ils sont en bas, de l'autre côté de la balance? Est-ce que c'est logique? Non, on est tous à égalité. Ma propre aspiration à être heureuse est tout aussi légitime que l'aspiration de tous les êtres à être heureux. Imaginez que tous les êtres sur la planète sont affectés par une maladie et qu'on a le médicament pour tous les soigner. Et il y a assez de doses du médicament pour tout le monde. Et nous, on est médecins. On est le responsable de médecin en chef pour toute la planète. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on va distribuer le médicament à tout le monde. On va s'assurer que chacun puisse recevoir sa dose. On va pas se dire non, ce groupe de personnes, non, je vais pas leur donner, ceux-là non plus. En ceux-là, ils y ont droit, mais eux non, ils y ont pas droit. Non, bien sûr. On va donner le médicament à tout le monde. Parce qu'on reconnaît que tout le monde est égal. Chacun aspire à être libéré de sa maladie. Et l'aspiration de chacun est complètement légitime. Puisque personne ne désire la moindre souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc pas d'autrui. Donc on se rend compte que cet esprit qui croit qu'on est supérieur, qu'on est plus important que les autres, il n'a aucune base logique. Il repose sur rien de logique. Et c'est cet esprit qui est notre véritable ennemi et qu'on va essayer de remplacer par l'égalisation avec entre soi et autrui. On peut imaginer que c'est comme si l'humanité, on va dire, c'est comme si on formait un grand corps. Et s'il y a une partie de ce corps qui souffre, on va vouloir apaiser sa souffrance. Quand on a mal au pied, la main, elle va venir caresser le pied pour essayer d'apaiser la souffrance, la douleur. La main, elle va pas se dire « Ah, mais sinon, c'est mon pied. » Non, c'est pas grave, c'est mon pied. Moi, je suis la main, donc je m'occupe pas du pied. Non, chaque partie du corps protège les autres parties du corps. Et là, c'est la même chose, puisque chaque être, on forme une humanité commune. On n'est pas réellement séparés, on n'est pas indépendants, on est tous reliés, on a tous besoin des uns des autres. Et on est tous égaux dans cette aspiration au bonheur. De la même façon qu'on souhaite apaiser la souffrance quand elle s'élève à l'intérieur de nous-mêmes, on souhaite l'apaiser quand elle s'élève à l'intérieur des autres. Comme un médecin, il va guérir toutes les personnes qui viennent le voir, sans discriminer en fonction des personnes. Qu'il apprécie ou non les personnes, qu'il ait des affinités ou pas avec certains de ses patients, mais il va les aider de la même façon. Puis ensuite, le Lama Tshopa nous dit, comprenant que cette maladie chronique de l'égoïsme est la cause des souffrances non désirées, j'implore votre grâce afin de blâmer, haïr et détruire le puissant démon de l'appréhension dans soi. Et Shantideva nous dit, tous ceux qui sont malheureux le sont pour avoir cherché leur propre bonheur. Tous ceux qui sont heureux le sont pour avoir cherché le bonheur d'autrui. Donc là, dans le deuxième point, on considère les désavantages de l'auto-chérissement. Et on s'interroge sur la cause profonde de nos souffrances. Pourquoi est-ce qu'on rencontre des situations dans lesquelles on souffre? Bien sûr, on fait appel au point du Lamrim qu'on a précédemment étudié. En particulier, là, on peut vraiment faire appel au karma. D'où viennent nos souffrances? Quelle est la cause fondamentale, la racine de toutes nos souffrances? Les situations inconfortables, d'insatisfaction, les maladies, les tracas, toutes les situations de souffrance, d'inconfort qu'on rencontre dans notre vie, elles proviennent de causes qu'on a créées dans le passé. Ça, c'est la loi du karma. Elles proviennent d'empreintes de graines noires qu'on a déposées sur notre courant de conscience. En particulier 10 actions non vertueuses, le fait de tuer, de voler, de mentir, de s'engager dans la conduite sexuelle, de voler. Etc. Toutes ces actions, on a nui à autrui dans le passé. Donc on a déposé une empreinte noire sur notre continuum mental et maintenant, cette graine arrive à maturité sous la forme de souffrances qu'on rencontre dans notre vie, d'expériences désagréables. Donc, quelle est la cause ? Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans ces actions négatives ? La cause fondamentale, c'est notre ignorance. À cause de cette ignorance, on s'est engagé dans tous ces karmas négatifs. À cause de cette ignorance, on s'est vu comme étant supérieur, plus important que les autres. Et pour obtenir peut-être un bienfait, une satisfaction temporaire, on a tué, on a volé, on a menti. Complètement omnibilé par notre satisfaction dans l'instant présent. Et en fait, on n'a fait que créer des causes de souffrance pour nous-mêmes, pour autrui. Donc la racine de tous nos problèmes, c'est notre auto-chérissement. Donc cette tendance à... On a tendance à accuser les autres de nos problèmes. Là, vous avez déjà étudié le karma, donc vous avez commencé à réfléchir à cet aspect-là. Est-ce que cette façon de voir les choses, elle est correcte ou pas? D'où vient fondamentalement tous nos problèmes? Est-ce que ça vient des autres ou est-ce que ça vient de nous-mêmes qui utilisons notre corps, notre parole, notre esprit de façon malhabile? On cherche le bonheur, on aspire au bonheur, mais dans notre ignorance, on ne fait que créer des causes de souffrance. Puis on arrive au point suivant, qui est les avantages de chérir autrui, les bienfaits du chérissement d'autrui. Et là, le Lama Tshopa nous dit, chérir ses mères et chercher à les établir dans la félicité et le passage vers des qualités infinies. Quand bien même ces êtres se dresseraient-ils en ennemis contre moi, j'implore votre grâce afin de les aimer plus encore que ma propre vie. Donc là, de la même façon que l'auto-chérissement, finalement, c'est la cause fondamentale de tous nos problèmes, le fait de chérir autrui est la cause de tous nos bonheurs. Là encore, on peut ramener ça à la loi karmique, la loi de cause à effet. Quelle est la cause de toutes les circonstances favorables, positives, agréables qu'on rencontre dans notre vie ? C'est d'avoir planté des graines blanches, d'avoir préservé la vie d'autrui, d'avoir protégé autrui, d'avoir respecté les biens d'autrui, d'avoir eu des paroles harmonieuses, d'avoir des paroles de vérité. Toutes ces actions qui sont en harmonie avec les êtres, qui aident les êtres et nous-mêmes. C'est grâce à elles qu'on rencontre maintenant toutes ces conditions positives, tout ce bien-être, tout ce bonheur. Le Lama Tshopa nous dit « En bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit et les Bouddhas exclusivement à celui d'autrui. Comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger contre autrui. » Donc habituellement, on se chérit soi-même. Et on ne chérit pas autrui. Donc là, il s'agit vraiment d'inverser cette attitude en reconnaissant qu'en fait, c'est cette attitude qui est notre véritable ennemi. Que si on veut mettre un terme à la souffrance, c'est cette attitude-là qu'il faut déraciner de notre esprit. Il s'agit en fait vraiment d'inverser la façon dont on conçoit habituellement les choses. On remplace notre attitude de se chérir soi-même par l'attitude de chérir autrui. Donc on a une telle familiarisation depuis tellement de temps de se chérir soi-même, en pensant que c'est ce qui va nous apporter le vrai bonheur. Et là, on se rend compte qu'en fait, on s'est complètement trompé. Cette aspiration à obtenir le bonheur, elle est complètement légitime, mais on a utilisé des moyens qui sont complètement erronés. On s'est complètement planté sur les moyens, sur les méthodes pour obtenir le bonheur. Ce qu'on pensait qui allait nous apporter le bonheur, en fait, ça n'a fait que nous apporter de la souffrance. On est notre propre ennemi. En fait, la véritable façon d'être heureuse, c'est de chérir autrui. Alors, il ne s'agit pas non plus d'arrêter de prendre soin de soi-même, hein, parce que bien sûr, on est responsable directement de nous-mêmes. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter de manger, d'arrêter de boire, de nier complètement, de se nier soi-même, c'est pas ça. C'est juste de remettre en question notre façon d'obtenir le bonheur. Parce que c'est ce qu'on cherche. de se rendre compte qu'en fait, sous l'emprise de l'auto-chérissement, on n'a créé que des actions qui sont sources de souffrance. Donc cette attitude de négliger complètement autrui et d'accorder une dimension, une importance démesurée à moi, c'est ça la cause de tous les problèmes actuels, de tous mes problèmes actuels. Donc on inverse cette attitude, on change de point de vue. Comme si on habite, on peut imaginer qu'on habite au sommet d'une colline. Et en face de nous, depuis la fenêtre de notre salon, on voit une autre colline avec une autre maison en face de la nôtre. Donc on a la sensation que cette maison, ses habitants, c'est les autres, c'est là-bas. Puis un jour, on déménage et il se trouve qu'en fait, on va habiter dans cette maison, sur la colline d'en face. Donc on est dans cette nouvelle maison. Puis on observe par la fenêtre du salon, on voit notre ancienne maison sur la colline d'en face. Il y a d'autres personnes qui habitent cette maison. On dit, ça c'est les autres, c'est là-bas. Et c'est juste une question de point de vue. En fonction des circonstances temporaires. Il n'y a pas là-bas qui existe en soi. C'est pas notre colline en soi. C'est juste une question de point de vue. On ne devient pas les autres ne deviennent pas nous, juste on change de point de vue. Avant, on négligeait les autres, on accordait une importance démesurée au moi qu'on faisait passer avant tout le monde. Et là, on remet en cause cette attitude. On se rend compte qu'en fait, elle n'est pas habile. Elle ne nous permet pas d'obtenir ce qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire le bonheur. Et puis on va renforcer cette attitude par la pratique de prendre et donner. Bien sûr, là je guide la méditation, mais c'est une invitation. Ça ne veut pas dire que vous êtes. Vous forcez pas en fait. Si c'est, voyons, ça c'est pas pour moi, ok. Vous n'êtes pas obligé de faire la méditation complète. Si vous sentez que ça vous convient pas, il n'y a pas de problème, faut pas forcer. Si vous restez au premier point, c'est très bien. Peut-être c'est à des personnes, ça. C'est une méditation. Ok, j'ai envie d'essayer de la faire. Ok. Donc là, à ce point-là, ça s'appelle tonglen en tibétain, prendre et donner. C'est qu'on pense à toute la souffrance des êtres. Mais on peut penser, peut-être c'est plus facile de penser juste à la souffrance d'un être, un proche, un ami, un parent, qui rencontre des difficultés. Peut-être c'est une maladie, c'est des difficultés au travail. Donc, en se rappelant ces difficultés, on génère de la compassion. Pense comme ça serait merveilleux s'il était libéré de ses souffrances. Et si on est confortable avec ça, on peut imaginer que ces souffrances, elles sortent de son corps sous la forme de fumée noire. Et nous, à notre propre cœur, on a notre ennemi, qui est notre auto-chérissement, qui a notre cœur sous la forme d'un caillou noir. Et on peut penser que toutes les souffrances de notre proche, elles viennent frapper ce caillou noir qui est à notre cœur. Puis on pense que maintenant, toutes les souffrances de cette personne ont complètement disparu. Que notre auto-chérissement, lui aussi, à notre cœur, il a complètement disparu. Le caillou noir, il a volé en éclats. Il a complètement disparu. Et on génère l'amour. On ressent vraiment comme... Puis comme ça serait merveilleux si cette personne pouvait être heureuse. Et puis on peut penser qu'on lui envoie depuis notre propre cœur, qui est maintenant que de la lumière au niveau de notre cœur. On lui envoie de l'amour sous la forme de lumière blanche. Cette lumière blanche va la toucher et lui apporte exactement ce dont elle a besoin pour apaiser ses souffrances. Peut-être qu'on peut même étendre cette méditation pour inclure d'autres personnes. Dans sa forme aboutie, on va inclure tous les êtres dans notre pratique de prendre et donner. On va penser que tous les êtres, comme ça, grâce à notre pratique, ont été libérés de leurs souffrances et qu'on leur a donné à tous tout le bonheur. Et on peut penser que grâce à cette pratique, tous les êtres maintenant, ils sont totalement libérés de toutes leurs souffrances. Ils ont atteint un état de vrai bonheur. Nous-mêmes et tous les êtres, en fait, on a atteint l'état de Bouddha. C'est ça le résultat de la pratique, de se libérer complètement de toute la souffrance et de parachever tout le bonheur. Nous, tous les êtres, nous-mêmes, on devient Bouddha. On peut imaginer qu'on prend tous la forme du Bouddha Shakyamuni, d'être complètement lumineux. On pense que c'est une visualisation, on l'a fait par en imagination, comme ça serait merveilleux si c'était la réalité. Si on pouvait réellement atteindre l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres. Donc chacun a son rythme. On peut conclure notre méditation. On peut prendre quelques instants aussi pour, si vous voulez, prendre des notes. Certaines choses que vous avez comprises au fil de la méditation, que vous ne voulez pas oublier. Bon, après, tous les points de la méditation, on les retrouve dans tous les livres, il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement touché, quelque chose que vous avez compris, vraiment de façon très personnelle, en faisant la méditation. Donc ça, c'est important de l'écrire pour ne pas l'oublier, et pour après pouvoir l'utiliser à nouveau, quand on fait la méditation dans la pratique quotidienne. Notamment tous les points, vous inquiétez pour les deux méthodes, hein, vous les trouvez notamment dans le livret de découverte du bouddhisme, hein, sur ce module. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tous les écrire. Vous pouvez, dans tous les livres de l'Amrim, les retrouver, toutes ces étapes. Ce qui est surtout important, c'est voilà, s'il y a quelque chose qui vous a particulièrement touché, de prendre le temps de l'écrire, parce que ça devient vraiment votre expérience personnelle. Comment c'était cette méditation? 2 pouces. Vous pouvez aussi faire ça, il n'y a pas de souci. Ok. Il y a aussi une autre façon pour la pratique de Tonglen. Il y a une façon aussi d'aborder cette pratique-là si on sent qu'on n'est pas prêt à prendre la souffrance d'autrui. On peut aussi faire la pratique en prenant notre propre souffrance. On peut commencer à faire la pratique comme ça. Okay. Donc ça, ce n'est pas une façon traditionnelle de présenter la pratique, mais c'est une possibilité. On peut par exemple, si on a des souffrances, qui sont encore présentes en nous, et peut-être on pense qu'il y a des causes, peut-être ça vient de notre enfance ou quand on était plus jeune, on peut repenser à ce moment-là, même se visualiser soi-même plus jeune, et puis penser qu'on prend ces souffrances-là sur nous et qu'on se donne à nous-mêmes le bonheur. Donc ça peut aussi nous permettre de guérir comme ça des souffrances personnelles. Alors on peut s'imaginer plus jeune, on peut aussi s'imaginer plus vieux. Hein, par exemple, si on voit qu'on a par exemple peur d'une certaine maladie, ou peur des souffrances de la vieillesse, peur des souffrances de la mort, c'est sûr, un jour on va devoir faire face à ces moments-là. On peut imaginer comment ça sera. Et on peut imaginer prendre nos propres souffrances, hein, nos inconforts physiques, notre peur, le fait de devoir se séparer de nos proches, de laisser derrière nous nos possessions, toutes ces choses-là, on peut s'entraîner comme ça, à les prendre, toutes ces souffrances sur nous-mêmes, et à se donner à nous-mêmes de l'apaisement, du bonheur, de la tranquillité pour être de mieux vivre ces moments difficiles. Donc ça, c'est aussi une façon de commencer à s'habituer à cette méditation de Tonglen. On peut bien sûr le faire avec nous-mêmes dans l'instant présent. Penser à toutes nos difficultés, à tous nos inconforts qu'on rencontre à l'heure actuelle et se donner comme ça. Prendre ces difficultés sur nous-mêmes, sur notre auto-chérissement, sur notre égoïsme, et se donner à nous-mêmes de l'amour, de la compassion, de l'apaisement. Donc les différentes étapes, c'était clair pour tout le monde? Ouais, okay. Donc dans l'égalisation, on commence par se rendre compte que moi-même et autrui, on veut le bonheur. Et dans ce sens-là, on est égaux. On est tous égaux. Et puis on remet en cause notre mode de fonctionnement habituel basé sur l'autochérissement, en voyant les inconvénients de l'autochérissement, qu'en fait c'est ça notre véritable ennemi, la cause de toutes nos souffrances. Et puis à l'inverse, c'est la cause de tous nos bonheurs, ça va être le fait de chérir autrui, on se rend compte de ça. Donc on inverse notre façon de voir habituelle, notre attitude habituelle. Et ça nous permet d'arriver à la pratique de prendre et donner. Donc avec prendre, en fait, on développe la compassion, et avec donner, on développe l'amour. Donc ça va renforcer notre compassion et notre amour, cette pratique. Et on commence par prendre, parce que avant de pouvoir donner, que ce soit si on fait la pratique par rapport à nous-mêmes ou par rapport à d'autres personnes, il faut déjà que la personne elle soit libérée de ses souffrances avant qu'on puisse lui apporter ce dont elle a besoin pour être véritablement heureuse. Okay. Donc c'est assez logique. On peut pas. Par exemple, les personnes qui souffrent de famine, par exemple, on ne peut pas commencer à leur faire des beaux discours ou leur donner une éducation. Déjà, il faut répondre à leurs besoins fondamentaux. Donc leur donner à manger, s'assurer qu'elles sont en bonne santé, qu'elles ont un toit, et après, elles vont pouvoir progresser dans leur vie. Déjà, faut déjà qu'il y ait un minimum de conditions qui soient réunies. Ok. Ah, il y a Daniel a levé la main. Ok, alors. Ouais, Daniel, si tu peux poser ta question.
Oui, bonjour et merci beaucoup. L'exposé est très clair. Par contre, comment je peux dire ? Moi, je ressens de la difficulté à arriver à l'équanimité, notamment pour les personnes qui font énormément de mal. Je pense évidemment aux conflits armés, je pense aux affameurs, parce que ce n'est pas un hasard si y a des gens sur la planète qui manquent d'eau, qui manquent de nourriture, etc. Alors, intellectuellement, je comprends parfaitement que ces gens-là, vu les souffrances auxquelles ils s'exposent à l'avenir.
On t'a perdu. Ah, tu vois, il y a ton micro qui s'est coupé.
Qu'on doit, je ne sais pas ce que je disais l'an dernier quand j'ai été perdue.
Tu nous parlais de les souffrances dont elles s'exposent à l'avenir.
Oui. Et intellectuellement, c'est clair pour moi. Alors, j'ai deux difficultés. La première difficulté, c'est que je pense d'abord aux victimes. Mon cœur, je suis désolée, mais mon cœur va d'abord aux victimes. Et il faut vraiment que je fasse un effort quasi surhumain pour que mon cœur aille vers eux, vers ces personnes. Et puis ensuite, j'ai une deuxième question qui est beaucoup plus délicate. Et je pense qu'il fait appel à la foi, c'est sur l'efficacité de ces pratiques-là.
L'efficacité.
Parce que je prends, je prends la souffrance des autres sur moi, mais quelque part, c'est un peu artificiel. Je suis pas dans leur situation, quelqu'un qui meurt de faim ou quelqu'un qui est sous les bombes, bien sûr que je combattis, mais je suis pas dans leur situation. Voilà, j'ai ces deux questions.
Attends.
Merci, en tout cas, merci. C'est très, très bien, très clair.
Alors, déjà, deuxième question, tant qu'elle est fraîche dans mon esprit. Par rapport à l'efficacité de la pratique, le but de la pratique, c'est de générer bodhicitta. Ok. Notre propre cœur, évidemment, C'est pas en faisant la pratique de Tonglen qu'on va pouvoir effectivement, dans la réalité, aider les êtres. Hein, si on pense qu'on apaise, par exemple, la souffrance de toutes les personnes qui n'ont pas à manger, qu'on leur donne de la nourriture, qu'on leur envoie de la nourriture, on fait ça pour nous-mêmes renforcer notre amour, notre compassion, être à même de développer bodhicitta. Et bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'en faisant ça, alors on va, après la session, on va aller écouter les infos, on va pas entendre que tout à coup, il n'y a plus de famine sur la planète. Non, bien sûr. C'est une technique pour générer bodhicitta. Okay, donc c'est pour travailler sur cet état mental pour être capable de générer bodhicitta en nous-mêmes. Après, c'est vrai qu'aussi, parfois, on entend les histoires que quelqu'un voilà, qui a un bodhisattva, qui a vraiment un amour, une compassion extrêmement forte, hein, comme on a dit hier dans l'anecdote de ce moine qui a été capable de guérir quelqu'un en méditant à côté de lui, en faisant naître la bodhicitta à côté de cette personne souffrante. Oui, mais là, il y a aussi, je pense, à l'œuvre des relations karmiques très particulières entre ces deux personnes. Souvent, il peut y avoir comme ça des guérisons grâce à la force de l'amour, la compassion, mais c'est quand même des choses assez particulières. L'aspect principal de pourquoi est-ce qu'on fait ces pratiques-là, c'est nous-mêmes de pouvoir générer bodhicitta. Parce qu'une fois qu'on aura généré bodhicitta, on va pouvoir, hein, ça va nous propulser jusqu'à l'éveil. On va joindre bodhicitta avec la sagesse. On va devenir nous-mêmes Bouddha. Et là, alors, on sera vraiment capable d'aider les autres de façon beaucoup plus concrète. Okay. Donc ça, c'est... voilà. Et la première question, oui, comment développer, réussir à avoir finalement autant de compassion, d'amour, de compassion pour les victimes que pour les agresseurs, quoi, que pour les personnes qui font souffrir les autres. Ça, c'est en fait, c'est se rendre compte que parce qu'on est, en fait, c'est comme si on dézoomait de la situation actuelle. Là, on est sur un gros plan. Il y a la victime, il y a la personne qui l'agresse. Et on prend en photo cette situation-là. Et on reste comme ça, zoomé sur la situation actuelle. Mais en fait, si on prend du recul, si on passe à une vue panoramique, on se rend compte que la situation, la personne qui est actuellement souffre, hein, qui est actuellement la victime, d'où vient la cause, hein, pas la cause immédiate, mais la cause profonde de ses souffrances. C'est d'un karma négatif. Hein. Donc à un moment, cette personne, elle a créé une cause pour ne pas avoir assez de nourriture. Et la personne qui est en train de l'affamer, qu'est-ce qu'elle est en train de créer comme cause, cette personne ? Mais à son tour, à créer la cause pour être affamé dans le futur. Comme ça, en fait, on dézoome de la situation actuelle pour se rendre compte qu'en fait, c'est une grande valse, en fait. Un moment, on est victime, un moment, on est agresseur. Et en fait, l'agresseur, le tortionnaire, il est en train de créer des causes pour lui-même souffrir. Donc si on arrive à percevoir ça, alors on peut générer de la compassion pour les deux personnes, quoi. Parce que toutes les deux, elles sont soumises à leur perturbation mentale. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire que j'aime bien, qui n'est pas traditionnellement enseignée, mais c'est un petit peu une... comment on dit ? En anglais, ils hack, comment on dit, c'est un... pour hacker le système, c'est un peu un coursier, ouais, un hack. Enfin, tout le monde comprend, je pense. C'est de s'imaginer cette personne actuellement, de s'imaginer quand elle était enfant. Si on n'arrive pas à générer de l'amour pour cette personne, on va dire, quelqu'un, je sais pas, il y a 60 ans actuellement, voilà, s'imaginer quand il avait 7-8 ans. S'imaginer, je sais pas, en train de manger une crème, en train de faire du skateboard. On se dit, mais en fait, c'était juste un enfant comme les autres, il voulait être heureux. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il il est devenu cette personne, cet adulte-là. En fait, il a dû rencontrer tellement de souffrances. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son éducation, des personnes qu'il a rencontrées, des problèmes qu'il a eu dans cette vie. En fait, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui souffre énormément. Et moi, je trouve que de penser il y a encore cet enfant qui souffre, qui est présent en lui, ça peut permettre comme ça de générer de l'amour, de la compassion pour la personne. Il y a toutes ces souffrances et blessures à l'intérieur de lui. Parce que quelqu'un qui est en train de... qui fait du mal aux autres, c'est qu'il souffre. C'est-à-dire, quand on est heureux, quand on est bien avec soi-même, on va pas aller blesser les autres. On peut penser à Poutine, sous enfant, sous une forme d'enfant. Quand il était un petit enfant, il voulait juste être heureux. C'est comme ça à tous les dirigeants, en fait. Qui s'engagent dans des conflits, etc. En fait, ils ont aussi à l'intérieur d'eux-mêmes cette nature de Bouddha. C'est juste qu'ils se sont fait complètement emporter par leur auto-chérissement. Ils ont mis en place des modes de fonctionnement complètement... qui sont que de la souffrance, en fait, eux-mêmes, ils sont en train de souffrir à l'heure actuelle. C'est clair, ils sont pas heureux. Et en plus, là, ils sont en train de créer des causes de souffrance extrêmes, donc qui vont encore faire que dans le futur, ils vont devoir encore souffrir. Imaginez quelqu'un qui est responsable de guerre, qui fait des milliers de victimes, mais quelle cause il est en train de créer, quoi. Quelle cause de souffrance pour lui-même il est en train de créer dans le futur. Donc, réfléchir à cette façon-là, quoi. Il y avait une autre main qui s'est levée, non? Okay. Ouais, si, Jean-Yves, ouais.
Oui, bonjour Vénérable, vous m'entendez bien?
Oui, Jean-Yves, bonjour.
Ok, j'ai une question simple, quelle est la place des 8 versets dans cette pratique?
Ah, mais j'ai une réponse qui va être encore plus simple, c'est que vous allez voir ça avec Christian lors du prochain module.
D'accord, merci. Parfait.
C'est pas mal ça.
C'est bien.
Ça, c'est un peu le teasing pour revenir, le prochain module. Non, mais le prochain module, je crois que c'est vraiment le prochain module sur la transformation, transformer ses problèmes.
Ah, d'accord.
Le Lojong. Donc là, les 8 versets, c'est un texte du Lojong. Donc, Christian va vous expliquer tout ça la prochaine fois.
Ouais. D'accord. Merci.
Merci. Ouais. Avec le micro, ouais.
Oui, par rapport à l'intervention précédente sur l'efficacité des pratiques, on va dire, pas forcément que aux bouddhistes, mais de gens qui prient,
ouais.
Qui ont des actions pures, on va dire. La façon dont je perçois ça, c'est que ça fait un agrégore d'énergie positive. Qui peut lutter contre l'agrégore négatif. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ça ne serait pas pire sans ces énergies?
Oui, ça c'est oui.
C'est pas forcément une efficacité individuelle.
Bien sûr. Après, il y a eu des enquêtes, des scientifiques qui s'étaient interrogés sur ces questions-là. Il y a eu une étude notamment... Ils avaient pris un groupe de personnes malades. Enfin, il y avait deux groupes de personnes malades. Et il y avait des gens qui faisaient des prières à destination d'un des deux groupes. Et après, ils ont vu comment les personnes évoluaient dans chacun de ces groupes. Et en fait, les personnes pour lesquelles on faisait des prières, bah, y avait une évolution plus positive de leur état de santé. Donc oui, il y a quand même... bien sûr, il y a des effets. Ouais. Ça, c'est. Et en fait, on nous parle aussi dans les enseignements des paroles de vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. C'est des prières, en fait, qui ont été. Il y a. notamment les paroles de vérité pour pacifier les épidémies qu'on a beaucoup restées pendant le Covid. C'est des prières qui ont été composées par des maîtres qui avaient déjà une éthique parfaitement pure et une bodhicitta vraiment fortement développée. Et ils disent parce que ils vivent de façon tellement pure que toutes leurs paroles, elles sont chargées de elles ont un pouvoir très très fort en fait. Et ces gens-là, quand ils vont dans une région où il y a une épidémie, par la force de leur éthique, de leur bodhicitta, ils peuvent réussir à pacifier la situation. Donc ça, après, c'est vrai que oui, on parlait de la croyance, oui, c'est vrai que c'est pas... Comment prouver ça? Bon, on peut effectivement faire des tests, des études scientifiques pour... Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile de... C'est des choses qui sont assez difficiles à prouver. Mais... En tout cas, je pense que ce qu'on peut observer, c'est que quand on a davantage d'amour, de compassion à l'intérieur de nous-mêmes, on est davantage en paix, on est davantage heureux, on est davantage en harmonie avec les êtres qui nous entourent. Donc après, on peut se dire, ok, nous, si à notre niveau complètement ordinaire, c'est le cas, quelqu'un qui a parfaitement réalisé la bodhicitta, je veux dire, c'est... Alors oui, on peut imaginer qu'une telle personne, elle est capable d'avoir un impact beaucoup plus grand sur les êtres qui l'entourent. Ses prières vont avoir un poids beaucoup plus important. C'est vrai que on peut l'imaginer, bien sûr.
Oui, s'il vous plaît, justement, je me posais la question, est-ce qu'il existe dans le bouddhisme une commission scientifique ou un organisme qui pourrait vérifier des miracles, un peu comme il en existe oui, à Lourdes.
Oui, c'est Isabelle, oui. Alors, en fait, dans le bouddhisme, c'est pas... Comment dire? C'est pas centralisé. Enfin, il n'y a pas une hiérarchie comme il y a dans l'Église. Il n'y a pas cette organisation-là qu'on retrouve dans l'Église. Donc, il n'y a pas ce type de commission avec ces personnes qui sont chargées d'examiner les miracles, etc. Ce n'est pas structuré de cette façon-là.
Ouais. Est-ce qu'il y en a eu des miracles? Est-ce qu'ils ont été répertoriés dans l'histoire?
Déjà hier, je vous ai dit cet exemple avec le guéché qui était à Lhasa, qui était allé prier auprès d'une personne malade, qui finalement, là, on peut supposer qu'il l'avait guéri par la force de ses prières, parce que c'était un bodhisattva. Donc après, si on va lire la vie, la biographie des maîtres, on va trouver plein d'exemples. Pardon. Mais voilà, après, il n'y a pas... C'est pas organisé comme dans l'Église, où il y a... On va mettre en tampon officiel, dire à telle personne, c'est un saint, ça, c'est une guérison. Non, il n'y a pas ce système-là.
Et merci.
Je voulais revenir sur le courant de conscience.
Ouais.
Donc je comprends le samsara, mais moi ce qui me préoccupe c'est l'origine de la conscience. Je comprends qu'on passe d'une vie à une autre, mais la vie au départ c'était des atomes ou... Donc, c'était plutôt physique. Donc, la conscience, à quel moment elle est née pour qu'ensuite, elle se transmette au cours du samsara et que ça continue et qu'on puisse en sortir.
Ok. Donc, quand on parle des atomes, on parle de quelque chose de physique. C'est le début. Il y a un début de quelque chose de physique. Mais est-ce que les atomes, voilà, quel est le lien entre les atomes et le courant de conscience? Est-ce que les atomes ont pu créer le courant de conscience? L'esprit? Bon, par exemple, ok, il y a eu le Big Bang, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y avait en fait avant le Big Bang? C'est ça le truc, c'est que... Donc, et dans le bouddhisme, c'est vrai... La base ou le supposé, c'est que notre courant de conscience n'a pas de début. Et nous, c'est extrêmement difficile, en fait, de percevoir, de conceptualiser quelque chose qui n'a pas de début. Parce qu'on est tellement habitué à se projeter dans une histoire qui avance, dans quelque chose qui avance. On n'arrive pas à imaginer quelque chose qui n'a pas de début. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est plus quelque chose de cyclique, en fait. En fait, ils ont une façon de voir les choses qui est beaucoup plus cyclique. Et nous, dans notre culture, c'est quelque chose qui a un début et qui avance dans une certaine direction. C'est une histoire qui progresse, quoi, qui est linéaire. Donc ça, pour nous, c'est très difficile à appréhender. Ouais.
J'ai un exemple.
Enfant, j'ai commencé à comprendre justement cette notion d'infini. Quand on parle de l'espace, en fait, on prend la Terre et on nous dit c'est dans une galaxie. Ok. Mais cette galaxie, elle est forcément dans quelque chose. Donc elle est dans une autre galaxie, etc. etc. Et en fait, quand on commence à appréhender ça, on s'aperçoit que ça peut être que c'est toujours sans fin, puisque c'est toujours dans quelque chose. Et pour moi, j'associe exactement le même phénomène à la continuité de l'esprit. C'est-à-dire que il vient forcément de quelque chose et finalement c'est sans fin. Et donc sans commencement. Sans fin, mais aussi sans commencement. C'est. Voilà.
Ok, super. Je voulais juste vous dire oui, là, il y a la méthode combinée aussi. Voilà. Donc elle reprend un des points de chacune des deux méthodes qu'on a vues précédemment. Voilà. Ok. Donc là c'est midi, donc on va faire la pause. Donc il y a un groupe de discussion à 14h15, c'est ça ? 14h15 à 15h, c'est ce que vous faites d'habitude avec Christian ? Ouais. Ok. Donc je vais vous trouver des questions. Et je vais, parce que je pense que le plus pratique, c'est que je vais les afficher à l'écran, comme ça vous les aurez à l'écran, et vous pourrez faire vos discussions comme d'habitude. Et puis on se retrouvera à 15h.
Je ne suis pas sûre, je pense que par le programme, on commence à 14h30.
Oui. Ah, bon, je sais pas, j'avais noté 14h15, mais c'est à vous de voir. Il n'y a pas de...
Non, le enseignement commence à 14h30.
Ok, et la discussion, elle est quand alors?
Oui, je ne suis pas sûre parce que normalement ça c'est juste pour les gens qui sont présents dans le groupe, donc moi je ne suis pas impliquée.
C'est comment d'habitude? Un quart d'heure, 20 minutes? Ah, c'est pas beaucoup, ok, d'accord. Non, mais on fait comme d'habitude. Hein. Ouais. Ok, juste dites-moi quand on se retrouve dans la GOMPA.
Donc 14h pour les groupes de discussion, okay. Et on commence l'enseignement à 14h30.
Ok, ça marche. Pas de soucis, hein, c'est juste pour...
Excusez-moi.
Ok, ça marche.
Est-ce que vous pourriez noter les questions dans le chat plutôt que sur l'écran, s'il vous plaît?
J'ai pas bien
entendu. Isabelle, j'ai pas compris la question, Isabelle.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez noter les questions sur le chat, ouais, plutôt que sur l'écran, s'il
vous... On peut faire ça, on les mettra aussi dans le chat. Ouais.
Non, en fait, les groupes de discussion, ils sont réservés à la personne qui sont présente. Non, venez, pas de souci.
Non, mais on pourra aussi les copier dans la discussion.
Ça, on peut faire en commencement de l'enseignement. Oui.
C'est ça, ça.
Donc, mais on n'organise pas pour l'instant groupe de discussion pour l'étudiant de Zoom. Voulez-vous nous excuser? C'est une question d'organisation en fait et de ressources. Merci beaucoup.
Okay. Donc, je voulais aussi vous montrer quelques livres. Donc bien sûr, il y a le livret sur de découverte du bouddhisme sur le module 10, comment développer bodhicitta. Donc là, vous retrouvez différents enseignements par différents maîtres. Il y a un enseignement de Lama Yeshe, de Lama Zopa, de Ling Rinpoche. Et puis il y a les méditations qu'on a vues ensemble, hein, vous les retrouvez sur l'équanimité. Et puis les différentes méthodes. Et il y a aussi le livre de Lama Zopa Rinpoche, La Bodhisattva Attitude. Donc là, c'est un livre où Rinpoche nous enseigne comment utiliser la bodhicitta dans notre vie quotidienne, comment générer la motivation tous les matins. Il y a des méditations guidées dedans. Et après, comment maintenir cette attitude tout au fil de la journée. Donc ça, c'est un livre qui est proposé en participation libre. Donc j'en ai déposé au fond de la Gompa. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez en prendre un. Il y a une enveloppe si vous souhaitez donner quelque chose pour qu'on puisse continuer à proposer des livres comme ça en participation libre. Si jamais il n'y en a pas assez pour tout le monde, s'il n'y en a plus, je verrai avec Christian pour qu'on puisse lui en faire parvenir d'autres, pour qu'il puisse en avoir lors du prochain module. Voilà.
S'il vous plaît, vous pouvez redonner le titre ?
La Bodhisattva Attitude. Je ne sais pas où est la caméra.
Oui, merci.
Donc, il est disponible sur le site des éditions Mayana si vous êtes à distance.
Voilà. Merci.
Hop. Et pareil, le livret, il est aussi disponible en PDF. Et ça, vous devez le savoir. Hein. Il est aussi disponible en PDF sur le site des éditions Mayana. Comme tous les livrets pour tous les modules, hein, ils sont disponibles à la fois en papier et sur le site des éditions en PDF, en participation libre. Voilà. Voilà, mais on va offrir le repas, quand même. Donc on va penser à tous les êtres qui ont contribué à préparer notre nourriture. C'est page 207. Hein, tous les êtres qui ont fait pousser les légumes, les céréales, hein, tous les différents aliments, les personnes qui les ont récoltés, les personnes qui les ont acheminés jusqu'ici, les personnes qui les ont préparés. Et on offre cette délicieuse nourriture à tous les Bouddhas, aux trois joyaux. Om Aum, Om Aum, Om Aum. Le maître est le Bouddha, le maître est le Dharma, le maître est aussi le Sangha, le maître est la source de tout bonheur. À tous les maîtres, je fais cette offrande. Au maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, le Sangha précieux, au trois arrêts sublimes, objet de refuge, je fais offrande. Puissions-nous, ainsi qu'à notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois rares et sublimes, faire continuellement des offrandes aux trois rares et sublimes, et recevoir les bénédictions des trois rares et sublimes. Bon appétit.